Bourgeois, tous bienvenue sur le plateau de Studio ZEF en direct avec mes invités habituels pour ce début d'année, toujours fidèles au poste. Bonjour Catherine.
Bonjour, bonne année.
Bonne année, oui c'est vrai. Bonjour Anne.
Bonjour Véro,
bonne année. Vous allez bien toutes les deux?
Très bien. Nous commençons bien l'année.
Bon, et ben c'est parfait. Alors Catherine, sans transition, hein, tu vas tout de suite prendre la parole.
Oui, hein. Je vais vous emmener en voyage.
Oh super.
Ah, je suis sympa.
Ah, c'est sympa ça.
Alors, je vais vous emmener en voyage grâce à Jean-Christophe Ruffin. En fait, j'ai lu un livre qui est sorti en mars 2017. J'avais un peu de retard, mais c'est pas grave. Hein. C'est Le tour du monde du roi Zibeline. Alors, déjà, Jean-Christophe Ruffin, il est un peu connu pour les gens qui lisent sur Blois, puisqu'il est venu à Blois lors de la remise de son Goncourt du premier roman en 1997. Donc les plus jeunes, peut-être, ne le savent pas. Et puis après, il a eu, avec Rouge Brésil, le Goncourt également. Donc, et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et l'écriture, c'est une deuxième vie pour lui, puisque c'est un médecin à l'origine. Voilà.
Et un diplomate.
Et un diplomate, pardon. Même si... Enfin bref, c'est une autre histoire. Alors, c'est quoi ce bouquin? Eh bien, c'est un roman historique. Un roman d'aventure, une biographie romancée, une histoire d'exploration, de colonisation, un récit de voyage, une histoire d'amour et peut-être même un conte philosophique. Bah oui, c'est tout ça, mais d'abord c'est une histoire vraie.
Tout à fait.
C'est une histoire vraie puisque ça raconte la vie d'un monsieur, d'un jeune comte hongrois qui a bien existé et qui a vécu toutes ses aventures. Alors évidemment, c'est un roman. Donc si on veut... Je ne vais pas dire la vérité de l'histoire, parce que ce monsieur a écrit ses mémoires et il n'y a pas toujours la vérité dans les mémoires. Mais au moins sa vérité, alors là, il faut se reporter à ses propres mémoires. Mais Jean-Christophe Ruffin, lui, nous a raconté une belle histoire. Voilà. Alors, qui est ce personnage? Eh bien, ça se passe donc le dernier quart, disons, du XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Et ce comte hongrois, enfin, il se dit hongrois ou polonais, d'ailleurs, Auguste Benjowski. Et, d'abord, il faut savoir qu'il a été initié par son précepteur français, qui était un esprit éclairé des Lumières, qui s'appelait Bachelet, je ne sais pas si c'est important, à la pensée donc, de Diderot, de Rousseau, de Voltaire, donc en opposition totale, il faut le dire, avec son milieu familial et évidemment principalement son père, puisqu'il était orphelin de mère. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui était attiré par l'action, donc son père le formait à la guerre, au combat. Alors très tôt, il est parti de chez lui et il s'est engagé, pense principalement pour quitter son père. Mais voilà, il est parti en aventure pour défendre l'indépendance de la Pologne. Il a été fait prisonnier assez rapidement par les Russes. Et de là, évidemment, il a été condamné, exilé au fin fond de la Sibérie. Il aura mis un an en marchant pour traverser la Sibérie. Et là, donc, il est condamné à vie, si on peut dire. Et là, il vit une histoire d'amour. Et puis, il s'échappe. Et puis, il traverse les mers. Et c'est pour ça qu'on parle du navigateur, parce qu'en fait, il s'échappe évidemment par mer. Il n'a pas beaucoup le choix. Et là, il va découvrir le Japon, la Chine, Formose. Il va aller jusqu'à Paris, puisqu'il parlait français, en fait. Mais il n'était jamais allé en France. Il va aller jusqu'à Paris. Et donc là, il y a tout un passage où il vit à Paris. Il découvre Paris. Alors, je dis « il », je devrais dire « eux », parce que c'est une histoire à deux voix. Et là, le gouvernement français, le roi de France, lui, il voulait donc repartir parce qu'il avait découvert des territoires qui pourraient devenir des colonies. Hein, et en fait, le gouvernement français se méfie un peu de lui et il l'envoie, je dirais vulgairement, au casse-pipe, c'est-à-dire qu'il l'envoie coloniser Madagascar. Voilà. Parti là-bas, il se rend compte qu'il y a une certaine hostilité à sa venue et il se rend compte aussi, parce qu'il a quand même quelques idées, pour lui un colonisateur c'est quelqu'un qui apporte la culture, la connaissance, donc qui ne peut apporter que du bien, ce qui n'est pas tout à fait la vision de sa femme d'ailleurs, mais il se rend compte que la France ne cherche qu'une chose, des esclaves, piller les territoires, donc tout d'un coup il se met du côté des Malgaches, il va les défendre. Et il devient, mais je ne vais pas vous raconter par quelle péripétie, il devient roi de Madagascar. Donc ce polonais hongrois devient roi de Madagascar. C'est quand même une histoire incroyable.
Ouais, complètement.
Donc, je crois que je vous en ai dit assez sur l'histoire. Alors, comment le roman est fait ? En fait, le parti pris de Jean-Christophe Ruffin, il part de la fin. Enfin, c'est pas tout à fait la fin, je dirais les deux tiers de l'histoire. En fait, à un moment, il se rend compte sur son île de Madagascar que ça va mal finir pour lui. Donc, il part chercher de l'aide. Et il va chercher de l'aide aux États-Unis, ce pays qui est un modèle de liberté, d'indépendance, etc. Et il demande audience, à... Tout à coup, j'ai un trou... À Benjamin Franklin, je ne me souvenais plus de son prénom, le pauvre homme, pour lui demander de l'aide. Mais pour lui demander de l'aide, il lui raconte son histoire. Alors, je vais juste vous lire le tout début, la façon dont il y avait de quoi se mélanger les pinceaux sur cette histoire complexe. Donc, il a été reçu avec sa femme, donc, parce que ce n'est pas sa femme, c'est plus que ça. Elle veut être plus que ça, ce n'est pas sa compagne discrète et tout. D'ailleurs, elle lui a dit « où je partage ses aventures, où je m'en vais à peu près. C'est, à part égale, je veux vivre les mêmes soucis et les mêmes plaisirs de la découverte. » Donc, c'est une sacrée battante. Ainsi, alors c'est Benjamin Franklin qui parle, c'est un vieux monsieur qui a plein de soucis de santé. Ainsi commença-t-il en regardant ses hôtes tour à tour. Vous arrivez de France ? Ah, pas directement, nous avons d'abord séjourné à Saint-Domingue. Mais permettez-moi, cher monsieur Franklin, de nous présenter. Je suis le comte Auguste Benjovski et voici mon épouse, Athanasie. Nous sommes accompagnés de notre fils Charles. Et donc, et où est-il cet enfant ? À l'auberge, nous ne voulions pas vous importuner avec lui, il n'a que 8 ans. Vous auriez pu, j'adore les enfants. Et puis je vous demandais pourquoi vous êtes venu en Amérique ? Pour vous voir. Tiens, tiens, quel honneur ! Franklin était en lui-même un peu contrarié que ses visiteurs appartiennent, si différents qu'ils fussent, à l'espèce des solliciteurs qui le persécutaient chaque jour. Par bonheur, il ne doutait pas que leur demande fût plus originale que les interventions qu'on le priait de faire d'habitude. « Vous êtes donc français, reprit-il, pour les conduire d'abord à se raconter un peu. »« Ah non, 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 je suis hongrois, dit Auguste. »« Non, plutôt polonais. Enfin, je suis un peu les deux. »« Je comprends, dit Franklin, qui de toute manière n'avait jamais cultivé ses connaissances sur ces profondeurs de l'Europe. »« Et vous, madame, vous êtes polonaise aussi. »« Ah non, prononça Athanasie, je suis russe. » Sa voix, bien posée, un peu grave pour son sexe, n'en était que plus sensuelle. « Russe ? Allons bon, je vous aurais cru parisienne. » Je ne sais si c'est un compliment. C'en est un, s'empressa Franklin. En ce cas, je l'accepte volontiers et vous en remercie. Nous avons vécu un peu à Paris, en effet. Et c'est là, pardonnez-moi d'être indiscret, que vous vous êtes rencontrés. Ah non, monsieur. Nous nous sommes connus, Athanasie et moi, sur les côtes du Pacifique. Auguste avait dit cela tranquillement, comme s'il avait proposé à Franklin une promenade au bord de la Delaware voisine. Du Pacifique ? Mais vous êtes des navigateurs. Je ne dirais pas cela, bien que nous ayons parcouru beaucoup de distance sur les mers. Ces petites énigmes plaisaient à Franklin. Il avait presque oublié ses rhumatismes, même si sa hanche droite le lançait encore un peu. Pardon pour ma curiosité. En temps ordinaire et quand vous n'êtes pas en visite chez moi à Philadelphie, où vivez-vous ? Dans le Pacifique ? Ah non, à Madagascar. Tiens donc, Franklin ne savait pas grand-chose sur cette île africaine et le peu qu'il en avait retenu lui faisait penser qu'elle était sauvage. Il jeta un coup d'œil à Athanasie, plus grande dame que jamais, répandant doucement autour d'elle un parfum subtil de lilas et de jasmin. Elle souriait avec tranquillité. « Et que faites-vous à Madagascar ? Je suppose que vous y tenez un emploi. » Auguste réfléchit un instant, puis dit sobrement « Je suis roi. » Voilà, le ton est donné.
Oui, tout à fait.
Et donc, la construction du livre, en fin de compte, c'est un récit à deux voix, un chapitre. Une partie du récit, c'est Auguste, une autre partie, Athanasie. Et c'est très intéressant parce qu'on a aussi deux points de vue pour des épisodes différents, mais parfois pour les mêmes, avec donc, cette aventure. Donc, c'est vraiment à la fois un roman d'aventure, un roman de découverte, puisqu'on découvre des terres, on se pose la question de ce qu'est, de ce qu'apporte la colonisation, ce qu'est un indigène, un bon sauvage, qui est le plus civilisé entre nous et les sauvages. Et puis, il y a aussi pas mal de réflexions, méditations sur l'unicité de l'homme, sa dignité universelle ou sur la sottise des hiérarchies entre sociétés. Voilà. Donc, je dirais que c'est une écriture simple, classique, c'est clair, c'est facile à lire et on est assez vite embarqué. Alors, comme tout roman historique, j'ai un peu creusé pour voir un peu quel était ce personnage, ce qui est quand même intéressant.
Alors ?
J'ai l'impression, je pense, Anne, comme tu le connais également, que bon, il s'est permis quelques fantaisies, mais il a quand même pas mal suivi l'histoire.
Hein. Mmh. Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de dire plus.
Hein. Oui, un petit peu plus, tu as le droit.
Ah bon ?
Ah ouais, trop bien.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est juste à cette période, juste avant la Révolution française. Donc il y en a les premières idées de liberté, d'autonomie de la conscience. Il y a une certaine réflexion. Alors, je ne dis pas que c'est un livre philosophique poussé, mais les réflexions, puisque quand ils sont à Paris, on croise, on parle de Rousseau, de Voltaire, de Machiavel, on croise Diderot d'ailleurs, qui les reçoit en robe de chambre.
Bien sûr.
Mais on se demande s'il avait autre chose à se mettre. Hein.
Dans la vieille, pas dans la neuve.
Voilà, on croise Holbard en son salon, voilà. Donc on croise tous ces personnages. Afanasy va également faire des rencontres avec ces femmes qui tiennent salon. Donc il y a vraiment toutes ces questions, puisqu'elle-même refuse de se marier, alors que son mari, pour la rassurer, pour la rassurer, voulait l'épouser, puisqu'il voulait partir seul à Madagascar et qu'elle ait une situation. Et en fait, elle refuse. Et elle dit qu'elle ne veut pas ce genre de protection de femme au foyer qui ne l'intéresse pas du tout. Donc, elle refuse le mariage et elle veut partir avec lui. Ce qui va se faire, ils vont même avoir un enfant, elle va être enceinte de 6-7 mois sur un bateau, en pleine tempête, enfin, il doit être costaud le gamin. Donc voilà, je trouve que c'est un roman très facile à lire, plutôt bien construit. Voilà, c'est pas
plaisant,
très plaisant. Voilà. Et puis pour ceux que ça intéresse, alors j'ai recherché aussi. Alors je pense qu'elles sont accessibles sur Internet, les mémoires de
parce sur Gallica.
Voilà, c'est donc la Bibliothèque nationale de France qui continue son travail de, de numérisation. Donc il y a voyage.
Peux-tu répéter
Lui, c'est Voyage et mémoire du comte Bieniowski. Donc il y a une petite différence puisque Ruffin a écrit Benjowski, mais enfin après. Contenant les opérations militaires en Pologne, son exil au Kamtchatka et son évasion. Donc ça a été publié à Paris en 1791, mais je crois que ça a été publié à Londres en 1789, donc un peu plus tôt.
D'accord.
Voilà.
Et donc ça, c'est accessible
Eh bien, c'est accessible sur Internet.
Sur Internet, Gallica.
Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale qui numérise tous les textes n'ayant plus de... Il n'y a plus d'ayant droit, donc ils sont libres de droit. Et ils impriment. Ils numérisent un grand nombre de textes. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce réflexe quand on cherche un texte ancien. Gallica, c'est une merveille.
Voilà.
Merveille.
Et alors, il y a un autre site qui est pas mal fait parce qu'il couvre toute l'Europe, c'est europeana.ue.
Voilà. D'accord. Europeana a été créé un peu en réaction de la mainmise que voulaient faire les Américains sur toutes les archives.
Voilà.
Donc voilà, Gallica, c'est pour la France, mais Gallica est dans Europeana.
Exactement.
Très bien.
Voilà. Et Europeana, ça a d'abord été la Hongrie, ensuite le Portugal, ensuite l'Espagne. Enfin, ils ont tous donné leur... C'est pas mal fait du tout.
D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, on rappellera ça aussi sur le site de Zef. C'est intéressant, ça.
Donc, je rappelle le titre. Oui, le Catherine. Tour du monde du roi Zibline. Zibline. Oui, on se demande à Madagascar, il n'y a pas de Zibline. Sa femme portait la Zibline.
C'est un mystère de plus.
Non. Jean-Christophe Ruffin, publié aux éditions Gallimard en 2017. Voilà.
Merci beaucoup, Catherine. Alors, Anne, c'est...
Ah, moi, je ne vous emmène pas en voyage.
Voilà, c'est ce que j'allais te
demander. Ce serait plutôt un voyage immobile.
C'est pas mal aussi, des fois. Hein.
N'est-ce pas? Alors, je vais vous parler d'une nouvelle. Véro nous a demandé de chercher des nouvelles, alors j'en ai trouvé quelques-unes intéressantes. Donc il s'agit de la plus belle nouvelle écrite par Paul Morand. Alors qui est Paul Morand? C'est un diplomate, un académicien, mais aussi un cavalier, c'est important. C'est l'auteur de plusieurs romans, L'homme pressé. C'est aussi un nouvelliste très admiré dans les années 30, comme Tendre Stock, Ouvert la nuit, Fermé la nuit, Londres, La route des Indes, enfin bon. Milady a été écrit en 1933, c'est la plus belle de toutes ses nouvelles. Alors, le commandant Garnefort, ancien écuyer du Cadre Noir, a décidé de passer sa retraite à Saumur. Toute sa vie tourne autour du cheval et il réserve toute son attention et son amour pour une jument qu'il a dressée en haute école et dont il a fait une pure merveille. Je voudrais vous lire
Oui,
un
je
passage.
T'en prie. Oh là là, Anne, tu as amené la liseuse.
Exactement.
Oh là là, formidable.
Alors, nous sommes au début de la, du chapitre 2. À nous deux, ma belle. Les relations affectives qui s'étaient établies entre le commandant et son cheval n'avaient rien de ces effusions dévoyées, de ces léchages de museau, de ces caricatures d'amour, de tous ces résidus pervers de sentiments humains qui président au rapport des vieilles filles et de leurs Pékinois. C'était d'abord un combat, où la jument savait qu'elle succomberait, où elle désirait d'ailleurs succomber. Une lutte qui commençait dans l'espièglerie, dans la ruse, et se continuait dans la rage, pour se terminer dans une sorte de pâmoison soumise, de détente complète, où l'un et l'autre trouvaient leur plaisir. Milady était sa chose. Gardefort l'avait découverte, il l'avait faite, elle était sa gloire. Elle l'entretenait dans l'illusion qu'il comptait toujours, qu'il appartenait au monde des vivants, qu'il possédait encore tous ses moyens physiques et moraux, bien qu'il les eût, comme tout le reste, en partie perdus. Son instinct extraordinaire du cheval, qui allait presque jusqu'à la seconde vue et qui, dans d'autres domaines, eût fait de lui le roi des impresarii, le prince des managers, le type même d'un supérieur des jésuites, mais qui, en la grise et malchanceuse monotonie de sa carrière militaire, n'avait même pas pu s'exercer à fond dans le domaine hippique, ce don de prospection que quelques-uns de ses égaux, pas mal de ses inférieurs, mais aucun de ses chefs, n'avait soupçonné, ce génie étrange de la découverte, mélange d'amour et de magie qui était le sien, l'avait un beau jour fait tomber en arrêt devant Milady, quelque part en Normandie, dans une de ses tournées de commission des haras où il était convié. Voilà, c'est une rencontre extraordinaire. La jument en elle-même est une jument ordinaire, il en a fait une merveille. Milady est, de loin, séparé de sa femme qu'il méprise puisqu'elle n'est pas bonne cavalière, il demande le divorce. Mais les frais occasionnés obligent Garnefort, qui n'a que sa retraite d'officier, à vendre sa jument à un banquier belge qui est en admiration devant la perfection de Milady et ses performances de haute école. Invité par ce banquier 3 mois plus tard, Garnefort découvre avec désespoir sa belle jument transformée en lamentable rosse de concours hippique. Et c'est le drame. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est quand même une nouvelle, il faut lire la nouvelle. Milady est de loin, à mon sens, la plus belle description du milieu de la cavalerie de haute école. Dans une ville, Saumur, alors entièrement vouée au cheval, fière de l'existence du quatre noir. Elle décrit par ailleurs le pouvoir destructif de l'argent et du manque d'argent, et l'angoisse de l'homme privé de sa raison de vivre. La nouvelle fut portée à l'écran à la télévision en 1975, avec pour interprète du commandant Garnefort, un Jacques Dufilho remarquable. Lui-même d'ailleurs, cavalier très connu, ami de Philippe Noiret et Jean Rochefort. Voilà, pour moi, ce texte est une référence, d'ailleurs pas que pour moi, c'est une référence de lecture dans le monde équestre. On le donne à lire aux jeunes cavaliers. J'espère que vous le lirez et que vous en serez, comme moi, enthousiasmés.
Merci Anne. Alors, quand tu dis
alors,
que...
Oui,
vas-y, vas-y.
Milady est édité chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire.
Et j'ai vu qu'il était, oui, en livre de poche aussi,
alors
il
là,
me semble.
Je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas vu.
Pour moi, il est toujours...
Oui.
C'est en quelle année, hein, dans l'Imaginaire?
En 92.
Oh, oui, donc,
Je ne me suis pas enquise de...
Mais je me demande s'il n'y a pas aussi les œuvres complètes de Morand en Pléiade.
Bien sûr. Mmh.
Donc, ça doit être dedans.
Bien sûr, mmh. Mais enfin, on ne va pas demander à des jeunes qui nous écoutent d'aller acheter un livre de la Pléiade.
Non, mais je veux dire, c'est un moyen de les trouver. Ils sont tous à la bibliothèque avec Grégoire.
De toute façon, ils sont à la bibliothèque de la
Non, mais c'est pour qu'une nouvelle entraîne d'autres lectures.
Tout à fait.
C'est ça, l'intérêt.
Il est certain que quand on a lu celle-là, on a envie d'en lire d'autres, parce que c'est vraiment...
Une belle écriture.
Une belle écriture et une perfection en 66 pages.
Et au début, tu disais c'est la plus belle des nouvelles de Morand. Est-ce que c'est un avis personnel ou ça a été unanime à sa sortie?
Ça a été unanime ensuite. Morand a eu une carrière de diplomate. Mais il a eu des problèmes étant donné qu'il était dans le gouvernement de Vichy.
De Vichy, oui.
Il était ambassadeur nommé par Laval. Et donc, après la guerre, on lui a cherché des poux dans la tête, ce qui est logique. Il a été mis à l'écart, il a été obligé de s'exiler en Suisse. où il a continué à écrire, bien entendu. Et en 1936, il avait été recommandé pour l'Académie française. Il n'avait pas eu le nombre de voix suffisant. En 1938, il venait d'être nommé par Laval. Il n'a pas eu le nombre de voix suffisant. Et ensuite, le général de Gaulle a mis une opposition totale à sa nomination jusqu'en 1968. Et en 1968, il a été élu avec 36 voix pour et 2 contre. Mmh. Voilà. Et bon. Milady fait vraiment partie, pour lui, de son panthéon personnel.
Ah oui, oui, oui. Ouais. D'accord.
Voilà. Et dans les romans, parce qu'il y a, il y a les nouvelles et il y a les romans, et dans les romans, il y a L'Homme pressé. Vous avez vu L'Homme pressé récemment, joué par Alain Delon à la télévision.
Ah, bah, si on a la télé.
Ouais, si on a la télé. Voilà.
Voilà, désolé.
Bon, on peut se consoler avec le livre, hein, c'est très bien.
Exactement. Ouais,
c'est bien
le
aussi.
Le livre est très,
ouais.
très intéressant.
Ouais. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après ça. Du vent dans les pages, sur Studio Zef. Voilà, du vent dans les pages, donc, pour parler de bouquins, des auteurs, de ce qui se passe dans l'actualité littéraire. Voilà, donc, bah, Catherine, c'est de nouveau à toi la parole. Avec quoi ?
Eh bien, je vous ai d'abord parlé d'une histoire qui se passait au 18e. Là, je vais vous parler d'une histoire qui se passe au 19e, au 20e et au 21e. C'est le grand écart. Alors, en fait, c'est le dernier roman de Serge Joncourt, roman qui s'appelle Chien-loup. Et alors, grand écart. Alors déjà, Serge Joncourt, ben, c'est un romancier assez généreux. Il écrit pas mal de choses. Je regarde si c'est tous les ans. Non, pas tout à fait. Tous les 2 ans, mais c'est pas mal. Donc, il y a eu L'écrivain national, Repose-toi sur moi, avec des prix, hein, tout ça. Combien de fois je t'ai, l'homme qui ne savait pas dire non, etc., etc. Là, pour celui-ci, on est à 2 siècles. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, ces 2 histoires, semble-t-il en parallèle, leur point commun, c'est le lieu. Mais c'est tout, à 100 ans à peu près de différence. Il y a une histoire qui se passe en 2015 et une autre histoire qui se passe en 1914. Le point commun, c'est ce que je disais, c'est le lieu. On se trouve dans le Lot, Quercy, enfin dans ces coins qui ont une particularité, c'est très beau,
c'est
très isolé, et il n'y a pas de réseau.
Oh, c'est bien.
Et il n'y a pas de réseau.
C'est ça
le drame. Donc l'histoire, c'est quoi ? Alors l'histoire, puisque là aussi, on va croire que, pourtant je ne l'ai pas fait exprès, c'est un hasard. Dans le roman d'avant, il y avait 2 histoires, si on peut dire, même si c'était la même histoire. Et là, il y a vraiment un chapitre qui se passe en 14, un chapitre qui se passe... Pourquoi je vous ai dit 2015 ? C'est en 2017, enfin c'est maintenant, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire un petit rapprochement. Donc il y a vraiment ces 2 histoires. Et bon, on voit bien que ça se passe au même endroit, on essaie de trouver les fils... Bon. Au fur et à mesure de la lecture, on se dit « oui, je commence à voir qu'il y a un lien entre les 2 histoires », mais ce n'est pas tout de suite. Alors, la première histoire, donc, c'est tout bête, hein, ça commence en 14. Je vais vous lire le tout petit dernier du premier chapitre, quelques dernières lignes. « Dès cette première journée d'août, on se souviendrait aussi qu'elle était idéale. Les moissons s'annonçaient exceptionnelles, les cultures données comme jamais. L'après-midi resplendissait comme un tableau à peindre. » Cependant, où que l'on fût à 16 heures ce samedi-là, à moissonner en plein soleil ou à récupérer à l'ombre des noyers, chaque être fut cloué par ce prodigieux coup de froid. Orcières était loin de tout, au fin fond des collines escarpées du Causse et à 30 kilomètres de la première gendarmerie. Mais ici, comme ailleurs, il aura suffi de ses cloches et d'une grande affiche collée sur les murs pour que tout se dérègle. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Voilà, tout est dit au bout d'une page. Donc, on va tout le long du livre partager la vie de ce village perdu. En fait, on partage la vie des femmes, puisque les hommes sont partis il y a quelques
vieillards ou quelques adultes mais handicapés qui ne peuvent pas partir à la guerre. Et sinon, ce sont les femmes et les enfants. Et on a aussi un lien avec les animaux, puisque comme on le comprend dans le décret, les animaux sont réquisitionnés. Mmh. C'est-à-dire que les femmes vont faire le travail des hommes, mais sans les bêtes. Et c'est autre chose. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le côté 14. Et puis donc, deux pages plus tard, deuxième chapitre, on est au printemps 2017. Alors, je vais vous lire, je vais quand même vous dire ce qui se passe en 2017. En fait, cette deuxième histoire, c'est un couple, Lise et Franck. Lui est producteur de cinéma, elle est comédienne, mais sans contrat pour le moment, donc libre. Et ils se retrouvent donc dans le Lot, loin des villes. Loin des villes. Ils viennent passer des vacances. En fait, c'est elle qui a eu cette idée de trouver le coin, une maison. Elle a loué une maison, mais très isolée dans le Lot, parce que qu'ils coupent les ponts de tout pour essayer de se.
La fameuse zone blanche.
Voilà. Mmh. Ben, ils disent zone noire, mais elle est blanche ou noire. Voilà. Donc, c'est un peu ça le départ. Alors, je vais vous lire le début, parce que c'est une scène assez typique. Entendant bien l'oreille, on n'entendait rien d'autre que des chants d'oiseaux et des bourdonnements d'insectes. Pas le moindre bruit de moteur ni de voisin. Pas même un chien pour aboyer au loin, ni l'écho d'une route lointaine ou d'un avion. Pas la moindre manifestation de l'humain. Pour Lise, c'était le bonheur absolu. Pour Franck, la parfaite angoisse. Une fois dans la maison, ce fut pire. Il se sentit oppressé par le silence de ces murs épais, littéralement coupé du monde. D'autant qu'avec cette fraîcheur humide qui est le lot, des maisons restées longtemps fermées, on se serait cru dans une grotte sous terre ou bien dans un module échappé dans l'espace. Ce silence était bien plus dense que celui du dehors. C'était la même paix, mais angoissante. Franck soudain se trouva mal, en tout cas très éloigné de sa zone de confort. Il redescend vite récupérer son smartphone dans le vide-poche de la voiture et constata avec effroi qu'il ne captait pas. Sans plus le moindre sang-froid, il se mit à marcher le long en large pour essayer d'attraper du réseau quelque part. Il tenait le téléphone tendu devant lui comme une télécommande pour rallumer le monde. Il longea même la crête, il sillonna tout le plateau en haut de cette colline sans déceler le moindre signal. Où qu'il aille, il n'arrivait pas à accrocher la moindre barre de réseau, et ça vraiment, ça se pouvait pas. Alors il s'élança dans cette grande pente face à lui, il dévala la belle prairie qui se déroulait vers l'est jusqu'à une combe, à 500 bons mètres de la maison. Il parcourut tout le flanc de colline avec ses chaussures de ville, s'emberlificotant les pieds dans les herbes hautes. Il descendit de plus en plus vite, emporté par le mouvement. Depuis la fenêtre, Lise l'observait. Elle le vit se ruer dans cette longue prairie inclinée, déportée par l'élan, à croire qu'il s'efforçait de marcher lentement mais que la déclivité l'entraînait. Il gardait les yeux rivés sur son téléphone sans regarder vraiment où il mettait les pieds, comme s'il veillait un petit animal qu'il ne réussissait pas à réanimer. Tout en bas, Franck ressemblait à une figurine. Son polo rose et son pantalon de ville trahissaient tout de sa perdition. Elle continuait de l'observer. Il avait les yeux toujours rivés sur son téléphone, bougeant en tous sens, faisant des écarts à droite et à gauche. À un moment, il s'engagea même dans le bois pour voir s'il captait. J'arrête là. Mmh. Vous avez une idée des deux personnages.
Tout à fait.
Cette histoire, donc voilà, c'est l'isolement, là vous l'avez bien compris, et ils vont tous les deux découvrir, on va voir comment ils vivent cet isolement et la découverte de ce monde. La seule trace de vie qu'ils rencontrent, si on peut dire, ce sont les bêtes sauvages, même si certaines sont très sympathiques, mais quand même, les bêtes sauvages et un chien. Puisqu'il a donné son nom, c'est le titre du livre, un chien. Et c'est un chien libre, à première vue, pas de collier, rien, qui se méfie des hommes. Et en fin de compte, l'irruption de ce chien loup errant et change la vie du couple. En fin de compte, Serge Joncourt, il met une sorte de... Enfin, il montre la dualité de cette bête, de ce molosse, parce que la description du chien... On n'a pas envie de le croiser tout seul au fond d'un bois parce que ça m'a l'air d'être une sacrée bête. À la fois, il est féroce, buté, et à la fois, il devient docile et affectueux. Donc, on découvre aussi cette relation, cette sorte de cohabitation hommes-animaux, et puis la notion de rapport dominant-dominé, maître-nourriture. Il est souvent question de nourriture dans ce roman, tout le long du roman d'ailleurs. Hein. C'est un point important.
Épicurien.
Ouais. Oui, mais les deux héros, tout au moins au début du livre, sont végétariens, ces deux-là. Ah bon hein. Mais on verra que ça peut changer. Alors, voilà une phrase que j'ai extraite. « Être maître d'un animal, c'est devenir Dieu pour lui. Mais avant tout, c'est lui assurer sa substance, sans quoi il redeviendrait sauvage. » Voilà. Donc, l'idée, c'est que cette sauvagerie qui est embusquée, elle est toujours prête à surgir. Et comme le chien se méfie des bipèdes, et il refuse d'entrer dans la maison. Donc, il y a une sorte d'accord qui est passé. Et en fait, on voit dans cet homme du 21e siècle qui donne toute sa confiance, à part à sa femme quand même, à son téléphone. C'est son seul lien avec le monde. Tout d'un coup, il perd son instrument de mesure et il faut qu'il se reconstruise. Et il va se reconstruire comme un homme de base et avec la lutte. On voit dominant, dominé pour le chien, mais on verra aussi, puisqu'il est dans l'histoire, on voit qu'il est producteur de cinéma, et en fin de compte, il a des nouveaux actionnaires, enfin, des partenaires, qui en fait sont des jeunes aux dents longues, qui ne rêvent que numérique, d'Amazon, de Netflix. Alors au passage, je peux vous dire qu'il y a un procès... bien menée contre toutes ces entreprises qui ne payent pas un gramme d'impôts et qui profitent du travail des autres.
C'est dit.
Voilà, c'est dit. Et donc, on voit aussi cette haine, on peut dire, qui monte dans Franck pour ces jeunes loups, puisqu'on dit bien des jeunes loups, donc c'est un combat de bêtes. Mmh. Et il va aller vraiment très loin dans ce combat avec ces deux jeunes hommes, en montrant que même s'il est plus âgé, lui aussi, il peut se battre. Et vraiment, il va très très loin dans l'histoire. Voilà, je vous donne une petite citation. « Il se sentait prêt à réveiller en lui cette part de violence qu'il faut pour se défendre, mais surtout pour attaquer. Et ce chien, mieux que personne, lui disait de le faire. » Alors, parallèlement aussi, 14, je vous ai dit, on parle des femmes, de leur combat, de leur manque d'hommes, parce que c'était pas évident aussi. Dans ce village, la guerre, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils n'entendent rien de la guerre. Ils ne savent rien de la guerre. Le seul moment où on leur parle de la guerre, c'est si le maire vient apporter... un petit billet pour dire qu'un homme est mort. Mmh. Voilà. Mais c'est tout. Et puis aussi, le manque de bêtes, je vous l'ai dit, mais ils ont quand même fait quelque chose, c'est-à-dire à l'estive, ils ont planqué une partie de leur troupeau parce qu'ils voulaient quand même garder leurs moutons, leurs brebis pour se nourrir, et pour faire le lait, le fromage, et ils ne voulaient pas que tout soit réquisitionné pour les armées. Donc ce troupeau aura une certaine importance parce que, en plus, là où se trouve Franck, on le découvrira plus tard, mais Franck et Lise, dans cette maison complètement isolée, où il est même dur de monter en voiture, même avec un 4x4 perfectionné, c'est vous dire. Eh bien, pendant la guerre, il y avait un habitant très, très curieux. C'était un Allemand pendant la guerre, qui évidemment ne voulait pas se faire enrôler, qui s'est planqué là, avec l'accord du maire du village. Et c'est un Allemand qui était un circassien et qui s'est planqué avec ses bêtes. Tigre, lion, etc. Donc, ça va être aussi un élément très fort.
Pas facile à cacher, tout ça.
Pas facile à cacher, surtout quand la nuit, les bêtes... Parce que justement, avec les moutons, les brebis à l'estive, elles sentent ça et ça les excite beaucoup.
Évidemment.
Voilà. Donc,
c'est riche.
Ah oui, c'est vraiment très riche.
C'est très dense. Hein.
On est bien tenu.
Ouais.
Il y a vraiment... Alors, moi, personnellement, j'ai senti une petite faiblesse de rythme vers le milieu, mais ça arrive souvent parce que c'est quand même un livre assez long. Mmh. Mais dans l'ensemble...
Il tire la ligne un petit peu.
Voilà, c'est pas... Par moments, on a l'impression qu'il tire un peu, mais voilà, c'est une petite critique. On commence l'histoire, à chaque fois, on a envie, alors on se retrouve en 14, on veut savoir ce qui s'est passé après. Et cette balance est bien, bien équilibrée. Et il y a vraiment des scènes, on est pris une sorte de suspens, il est là dans les bois, il marche, on a l'impression d'être dans la forêt vierge, on est en bien en France, dans un petit coin tranquille. Et je trouve que c'est très, très bien décrit. On sent que Serge Joncourt connaît bien le pays et que ça doit être lui aussi un peu un ours et qu'il aime bien ses coins reculés et qu'il doit avoir une maison dans un endroit où le téléphone ne passe pas.
J'ai lu quelque part qu'on dit de lui qu'il est né un jour de grève générale et que ça a marqué sa carrière.
Ah, d'accord. Comme il dit, Serge Joncourt, il raconte une légende, sauf qu'elle est vraie.
Oui, c'est ça.
voilà, c'est de tout rôde. C'est-à-dire, c'est une histoire qui rôde, ce sont des bêtes qui rôdent.
Ouais,
ce sont, ouais. Il y a vraiment. C'est entre l'animal et l'homme, mais quand je dis l'homme et les femmes, parce que les femmes sont impliquées, que ce soit en 14 ou. Il y a quand même les instincts, on voit tout ça qui ressort. Beaucoup d'instincts dans cet humain policé. Voilà, je ne sais pas si je peux dire d'autres choses.
Eh bien, déjà, je pense que tu nous as bien donné envie de s'y plonger, hein, voilà. Vraiment.
Alors, je vous rappelle.
Voilà,
ce que c'est.
Exactement.
Alors, il s'agit de Chien-loup de Serge Joncourt, qui a été publié chez Flammarion en 2018.
Oui, tout récent.
C'est tout récent.
Merci beaucoup, Catherine. Alors, Anne, c'est, je crois, alors, au début, quand tu m'as dit l'œil du silence, j'ai tout de suite pensé au tableau de Ernst.
Non.
Au tableau de peinture, je me suis dit, tiens, il y a un roman là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, finalement, d'après ce que j'ai compris, enfin, on est loin, mais en même temps, ça ressemble un peu, pas à l'histoire, mais peut-être à l'évocation. De
non,
l'image.
C'est pas ça. En fait, je vous parle de ce livre parce que il y a environ 3 semaines, j'ai lu dans Elle un commentaire sur une exposition qui se passe à Barcelone sur Lee Miller et Roland Penrose, peintres surréalistes britanniques. Et ça m'a rappelé ce livre magnifique que j'ai lu il y a bientôt 20 ans, et s'appelle « L'œil du silence », écrit par Marc Lambron, qui est un critique du Point, un critique littéraire qui est à l'Académie française depuis 1 ou 2 ans. Alors, « L'œil du silence », c'est, sous forme de roman, la vie d'une femme formidable, exceptionnelle de beauté et d'intelligence, qui traversa le XXe siècle, qui s'appelait Elizabeth Dietley Miller. Née aux États-Unis en 1907, elle quitta ses parents à 18 ans pour devenir mannequin à New York, puis photographe portraitiste. D'une beauté sculpturale, elle cachait cependant des souffrances intérieures. À 7 ans, un ami de la famille à qui on l'avait confiée l'avait violée. À 10 ans, un petit garçon ami s'était noyé devant elle dans un étang et elle a porté cette douleur toute sa vie. Elle vint à Paris, où sa beauté blonde et glacée séduisit le célèbre photographe Man Ray, dont elle devint la muse, et elle fréquenta alors Picasso, Picabia, Aragon et Cocteau. Farouchement indépendante, Lee étouffa très vite dans ce milieu et prit la fuite. Quand la guerre survint, après avoir arpenté Londres sous le Blitz, son appareil photo en main, elle obtint en 1944 de l'US Army une accréditation de correspondante de guerre et partit pour l'Allemagne avec la 3e armée. Elle parcourut avec eux une Europe en ruine et envoya à Vogue, qui lui avait donné sa carte de presse, toutes ses photos, en particulier à l'entrée des GI à Dachau. Elle était une des 3 personnes qui sont entrées les premières à Dachau. Et quand elle a envoyé le rouleau de photos à Vogue, elle avait joint un papier en leur disant « Je vous supplie de croire que tout cela est vrai ». Elle a continué ses reportages dans les belles maisons bombardées de Vienne. C'est assez amusant d'y penser, mais Lee Miller s'est baignée dans la baignoire de Hitler à Vienne, alors que Hitler se tuait à Berlin. À Budapest, sous la botte soviétique, à Bucarest, dans une misère épouvantable, donnant un témoignage photographique de tout premier plan. Rentrée à Londres, elle mourut en 77 et après quelques années d'oubli, on l'a fête ces jours-ci à Barcelone. Alors ce livre, c'est une tranche de vie et en même temps c'est toute la vie puisque le livre se passe entre 44 et 46 et l'auteur crée une rencontre entre le narrateur David, journaliste à Life Magazine, et Lee Miller à Rambouillet où logeaient tous les correspondants de guerre avant le départ pour l'Alsace. Un coup de foudre brûlant au cours d'un compagnonnage quotidien durant 2 ans pendant lequel, au sortir de nuits remplies de cauchemars, Lee raconte sa vie à David, amoureux transi mais lucide de cette femme superbe et inaccessible. Je vais vous lire un petit passage,
oui, oui, oui.
Sa découverte de cette femme absolument formidable. Ils sont à Rambouillet, il vient juste de la voir. Je ne pouvais détacher mes yeux de la femme qui se trouvait en face de moi. À cette heure, entre la nuit et l'aube, je la regardais avec les yeux de l'alcool. D'autres regards se tournaient vers elle. Bien que revêtue de l'uniforme de correspondant de guerre, elle n'était pas de ceux que l'on croisait à Rambouillet. Son visage était incroyablement beau. La chevelure taillée sans apprêt jetait dans l'ombre des éclats paille, mais repris, atténué par un teint pâle qui avait dû connaître le phare avant de s'exposer nu. Les yeux bleus disaient le voyage, et la tristesse aussi. Quand elle parlait, quelque chose de lointain prenait au cœur. Les mots tombaient d'une bouche dessinée pour embrasser. Une vigueur avait traversé l'amertume et façonné ces lèvres-là. On aurait hésité à la dire double, trop de présence immédiate, de vivacité directe. Et pourtant, Elisabeth Miller paraissait l'ombre portée d'une autre, ou peut-être d'elle-même. Chaque détail, chaque geste semblait habité de son contraire. Cette main négligente avait de la grâce. Le visage ignorait le maquillage par lassitude plutôt que par candeur. Et l'uniforme même châtiait l'allure sans voiler tout à fait une élégance à fleur de peau. Elle parlait un anglais où miroitaient les accents d'autres langues, un anglais de traversée avec les coupes qui introduit l'usage prolongé du français. Je la regardais sans entendre vraiment ses paroles ni les miennes. Une chose en elle stupéfiait. Ses traits s'offusquaient de la lumière, comme s'ils avaient été trop longtemps exposés, presque éblouis. Et parfois, au contraire, ils refusaient l'ombre et rendaient de l'éclat. Ce qu'elle nous raconta n'était pas dénué de bizarrerie. 3 semaines auparavant, elle avait été déposée en Normandie par un tank landing ship, muni de son accréditation et de ses 2 relais flex. À peine débarquée, elle avait filé à Saint-Malo avec la 83e division US. La forteresse était sous le feu américain. Elle avait assisté à la reddition des hommes du colonel von Hollock. Les soldats allemands, nous dit-elle, étaient terrifiés par les bombes au napalm, la nouvelle arme secrète de l'état-major américain. Une intrusion en zone non autorisée lui avait valu 24 heures d'interrogatoire près de Reims, et l'avant-veille, elle était arrivée à Paris. Plus étrange était son employeur, je n'en crus pas mes oreilles. Elisabeth Miller travaillait comme envoyée spéciale du Vogue britannique. Elle nous expliqua que la presse anglaise, même la plus futile, avait pris l'habitude depuis 1940 de contribuer à l'effort de guerre. C'était ainsi. Voilà, donc c'est le départ d'une épopée. Mmh. Avec les soldats américains, puis tout seul, à partir de Vienne, au lieu de rentrer, tous les correspondants de guerre n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer au pays, et eux demandent leur accréditation pour pouvoir aller plus loin et témoigner pour Budapest et Bucarest, qui sont en attente de la botte soviétique. Et c'est absolument épouvantable, de pauvreté, de misère. Les femmes se vendent. On se bat pour quelque chose de tomber dans la boue parce que ça se mange. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, ce livre est fascinant de bout en bout. L'écriture est flamboyante, précise, les descriptions vivantes. Lisez-le, vous vivrez intensément. Marc Lambron nous fait connaître une femme en avance sur son temps et découvrir le surréalisme à Paris dans les années 30, comme l'après-guerre terrifiante à l'est de l'Europe. Ça a été édité en 1993 et on le trouve en poche. Et
oui.
Pour terminer, je ne peux pas le montrer,
ouais.
Mais je vous le montre à vous. C'est le portrait de Lee Miller par Man Ray.
Voilà.
Belle femme. Hein.
Donc, comme tu disais au début, une femme magnifique.
Voilà, une beauté blonde et glacée.
Glacée, c'est
glacée,
ça. Surtout avec un regard assez extraordinaire.
On sent qu'elle a vécu des tas de choses.
Ah ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est... C'est une merveille de livre. Voilà, Marc Lambron, j'ai lu beaucoup de choses de lui, mais rien qui aille, qui arrive à ce...
C'est ton préféré.
Ah oui.
Ouais.
Oui, il est incandescent.
Bon, merci beaucoup, Anne. Alors maintenant, on va faire une petite pause musicale, suivie de la chronique de notre amie Alice. Une chronique, bien sûr, c'est une rediffusion, hein, enregistrée l'année dernière. Il me semble qu'elle nous parle de revenus universels. Eh bien, à tout à l'heure. Mmh.
Depuis longtemps, je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Y'a déjà du mieux, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. Là-bas juste un peu plus bas, on verra, verra, verra. On voit bien que ça ne va pas, non, les pas qu'à danser.
Mais c'est pas compliqué,
c'est pas comme ça qu'on va danser.
Depuis longtemps je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. D'autres sont restés à quai car ces pauvres matelots n'ont pas le vent dans le dos. Ce monsieur fait ce qu'il peut, madame est sûre de son droit. Un enfant qui fait des envieux dès qu'il pose ses premiers pas. Un fakir, un prothésiste qui se trompe et qui insiste.
Faudrait lui laisser, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra,
on verra.
On voit bien que ça ne va pas, non, on n'est pas qu'à danser,
mais c'est pas compliqué,
c'est pas comme ça qu'on va danser. Je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant.
C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un.
Ce fameux sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, un quatre pas dans les broussailles, qu'on fera des trouvailles.
Cette dernière chronique de l'année, nous allons parler revenu universel. Alors certes, la mesure ne risque pas d'être appliquée pendant les 5 prochaines années et la présidentielle est terminée. Mais justement, il peut être intéressant de se pencher sur le sujet loin de toute passion politique et puis avec un peu de recul. Puis bon, maintenant que le revenu universel a été clairement mis au centre des débats sociaux et politiques, il y a de fortes chances qu'il refasse surface à plus ou moins long terme. Le petit essai du jour s'intitule donc « Faut-il un revenu universel ?» et il est paru cette année aux éditions de l'Atelier. Il s'agit d'un ouvrage collectif signé des économistes atterrés de la Fondation Copernic et puis qui est coordonné par Jean-Marie Haribet et Christiane Marty. Alors, amateurs de polar, passez votre chemin. Les auteurs ne vous feront pas mariner jusqu'à la fin du livre pour vous donner la réponse. Dès l'introduction, ils affirment leur refus du revenu universel. Intéressant, de la part d'économistes hétérodoxes, à contre-courant de la pensée majoritaire. Bah oui, parce qu'en fait, le sujet divise la gauche et peut tout à fait être défendu par les tenants du libéralisme le plus débridé. Et c'est d'ailleurs l'un de leurs principaux griefs à l'égard de la mesure phare de Benoît Hamon. Pour les auteurs, le revenu universel n'est rien de moins qu'une façon d'individualiser les citoyens en leur accordant un revenu avec lequel ils devront se débrouiller. Et il faut savoir quand même que certains projets libéraux proposent d'éliminer toutes les prestations sociales en échange du fameux revenu de base. Alors face à l'argument qui consiste à dire que doté d'un revenu minimum, le demandeur d'emploi sera plus fort pour négocier son salaire ou ses conditions de travail, bah là les auteurs s'esclavent quasiment en se demandant qui pourra sérieusement s'opposer à un employeur tout puissant en échange de 750 à 1000 euros par mois. Selon eux, et c'est pas faux, le RMI puis le RSA n'ont pas rendu les citoyens plus forts face aux entreprises. Et selon eux, c'est considérer que doté de son revenu de base, bah, l'individu a toutes les clés en main et doit se débrouiller dans un rapport de force en sa défaveur. Alors sur le plan économique, les auteurs expliquent que le financement du projet est également problématique. Ni les économistes atterrés, ni la Fondation Copernic ne sont connus pour leur propension à vouloir couper dans les dépenses publiques. Mais là, ils s'accordent pour dire que la mesure coûterait très cher. Alors selon les scénarios, pour un revenu de base de 500 à 1000 euros, le besoin de financement s'étale entre 179 et 470 milliards d'euros. Enfin, ça tourne plus souvent autour de 300 milliards. Alors, certains imaginent un financement par l'impôt, d'autres une augmentation considérable de la CSG et de la CRDS, d'autres envisagent carrément de diminuer les retraites ou les prestations sociales. Bref, concluent les auteurs, à part passer par la création monétaire, verser un revenu universel d'un montant plus élevé que le RSA supposerait de renoncer à d'autres prestations sociales, voire à des pans entiers de la protection sociale comme l'assurance maladie. Quid de la répartition des revenus du capital, soufflent déjà les pro-revenus universels. Mais c'est justement là qu'on atteint le point d'achoppement philosophique le plus intéressant sur le sujet. Les auteurs de « Faut-il un revenu universel ?» sont en fait en total désaccord avec la notion de disparition du travail qui est en fait au cœur du débat. Pour eux, le travail est et doit rester un facteur d'intégration sociale. Et selon eux, adopter le revenu universel, ce serait revenir sur les grandes conquêtes sociales du 19e siècle qui ont vu le travail s'accompagner de multiples protections. Ils soulignent d'ailleurs que l'idée selon laquelle le plein emploi est devenu impossible s'est curieusement développée dans les années 80-90, notamment par l'OCDE et les rapports du commissariat au plan, soit dit en passant, qui était dirigé par Alain Minc, au moment même où les politiques néolibérales laissaient filer le chômage, ce qui n'est peut-être pas un hasard. Donc pour les auteurs de ce petit essai, nier la dimension d'intégration du travail revient à théoriser une société thatchérienne composée d'individus. Chacun se débrouille dans son coin avec ce qu'on lui accorde. Or, selon les auteurs, les problèmes sociaux appellent des réponses de solidarité collective. Et sur ce point d'achoppement, les auteurs vont même plus loin en faisant des femmes des victimes du revenu universel. Parce que permettre aux individus de pratiquer une activité non rémunérée grâce à un revenu de base, c'est bien. Mais c'est risqué de voir les femmes encore plus cantonnées aux tâches ménagères dont elles ont déjà toutes les peines du monde à se défaire. Et là, on n'est plus très loin de la notion de salaire maternel. En fait, c'est le droit de travailler qui est en cause. Nous ne pouvons accepter de faire de la protection sociale la voiture balai des ravages du capitalisme financiarisé, écrivent les auteurs. En fait, plus qu'un revenu universel, eux, ils proposent d'améliorer les minima sociaux, mais de relancer l'emploi à travers un plan d'investissement pour la transition sociale et écologique ou à travers la relance des services publics. Mais surtout, ils veulent poursuivre une avancée majeure de ces 20 dernières années, à savoir la réduction du temps de travail, pour partager le travail, pour améliorer les conditions de travail et pour dégager du temps de vie personnelle. En somme, c'est deux façons de partager les revenus du capital qui s'opposent. Bref, je vous recommande vivement ce petit ouvrage de 136 pages. Ça coûte 10 euros et c'est une contribution fort intéressante au débat.
Merci Alice. Mesdames, je vais donner un petit conseil, mon petit conseil BD de fin d'émission. Alors, je voulais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Le Dernier Lapon, qui est sortie en 2018, de Javier Cosnava. Et du scénariste Tony Carbos, tous deux dessinateurs espagnols. C'est d'après le roman policier d'Olivier Truc, du même nom, donc Le Dernier Lapon, sorti en 2012. L'histoire se passe à Kotokaino, village sami, alors le vrai nom des lapons, situé en Norvège. Alors depuis 40 jours, c'est la nuit polaire, un tambour sacré a été volé et un éleveur de rennes assassiné. Les deux enquêteurs qui sont chargés de l'affaire, Clément et Nina, pensent que les deux affaires sont liées. Les vieilles histoires remontent et au village, eh ben, on n'aime pas trop ça. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse sur le peuple sami, parce que c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu la chance d'aller dans le Grand Nord et de rencontrer cette ethnie. Ils forment donc l'un des derniers peuples aborigènes du Grand Nord, au-delà du cercle polaire arctique, au nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et sur la presqu'île de Kola en Russie. Alors on estime quelques 70 000 Samis unis par une même langue à 9 dialectes et qui ont une même histoire vieille de plus de 10 000 ans. Alors c'est un peuple qui est féru de chasse, de pêche, de cueillette, d'élevage, transhumant, de rennes, mais bien sûr au cours des siècles. Le protestantisme, luthéranisme, la colonisation, le libre-échange, etc., et j'en passe, eh bien, ont eu raison de leur mode de vie. Donc, c'est encore une ethnie qui disparaît à petit feu ou qui tombe dans la désuétude la plus totale. Donc, voilà. Alors, allez voir. Il y a plein de choses sur Internet sur ce peuple-là qui est absolument passionnant, qui est riche en culture et en nature. Et comme dans toutes les ethnies de ce monde, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà, le dernier lapon. Alors, c'est le graphisme est formidable. C'est un espèce de bleuté blanc. Enfin, on dirait qu'il y a une aurore boréale. Voilà, c'est la nuit polaire permanente. Donc, c'est très, très, très bien fait. C'est sobre. Je vous le conseille. Donc, c'est sorti en 2018 aux éditions Sarbacane. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore à la bibliothèque parce que je n'ai pas fini de le lire. Donc, je le reposerai bientôt, vous inquiétez pas. Catherine, je voulais juste revenir sur le salon du livre, Délire de lire, oui. Le salon du livre jeunesse qui va se passer donc au mois de...
Du 13 au 17 mars. Ah ouais, alors, ça. Le salon grand public du 15 au 17 mars. Voilà. Donc, c'est bientôt, dans deux mois.
Dans deux mois, j'imagine.
Quatrième édition.
Que vous êtes sur les chapeaux de roue. Ouais. On va faire le mois prochain, on va se retrouver ici. Moi, c'est ça que je vous propose. On va se retrouver...
À quelle date ?
On va se retrouver ici pour en parler. Le prochain du vendredi. Dans les pages, eh bien, ce sera spécial délire. C'est pas
en
mal.
En plus, on a un parrain, c'est une sacrée pointure, ouais. Benjamin Lacombe. Alors, quand on parle d'illustration, là, on est gâtés.
C'est vrai, c'est la pointure. Hein.
Ah oui.
Bon, Anne, tu seras des nôtres, hein, quand même.
Je sais pas, parce que je suis de garde scolaire.
Oh là 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 là. Mais voilà, mais, non, mais c'est terrible.
C'est encore une histoire de jeune.
C'est encore une histoire de jeune, c'est encore une histoire de retraité qui n'a jamais le temps. Ça suffit, hein, maintenant.
Non, mais on prendra notre retraite un jour, il ne faut pas désespérer. Hein.
Ouais, comme dirait l'autre, vous n'avez plus droit aux vacances hein, en même temps. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que cette émission est en podcast sur le site de studiozef.fr. Je mettrai toutes les références des bouquins dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, on se dit au mois prochain.
On se dit au mois prochain.
On se dit ça, hein, d'accord. Bon, eh bien, à très bientôt alors, à la radio.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.